l'intermède philosophique, une émission présentée par Camille Escamilla.
C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Jack.
Oui.
Ah, le grand rire des méchants. D'OSS 117 à Dracula, en passant par Predator, nous venons d'entendre la jouissance éprouvée dans la méchanceté. Eh bien, ce sera le sujet du jour, la méchanceté. Celle-ci nous inscrit dans le registre de la morale, de ses jugements, de ses valeurs. Elle suppose la méchanceté, l'opposition entre des bons et des méchants, des hommes louables ou condamnables, des innocents et des coupables. En témoigne sa définition. La méchanceté, c'est tout simplement le penchant à faire le mal. Alors, remarquons ici que le mal, au sens moral de faute, le mal qui s'oppose au bien, s'articule pratiquement toujours au mal au sens physique de souffrance. Ainsi, disons-nous, par exemple, « j'ai mal ». Faire le mal revient donc bien souvent à faire du mal, c'est-à-dire à faire souffrir. Et de fait, qui taxons-nous, et parfois un peu vite, de méchant, si ce n'est celui qui nous a imposé de la souffrance. Néanmoins, l'emploi de ces mots, méchant, méchanceté, semble aujourd'hui un peu dépassé. Le registre de la morale est moins convoqué qu'autrefois pour juger les actes et les comportements. On se situe aujourd'hui plus volontiers dans un registre clinique, en parlant de perversité, vous remarquerez que notre époque voit fleurir les pervers narcissiques, ou bien encore dans un registre juridique en parlant de délinquance. Et pourtant, ne sommes-nous pas confrontés quotidiennement à la méchanceté elle-même, quand par exemple nous regardons ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la haine, les humiliations, les persécutions même s'y exercent sans limite. Comment dire alors que la méchanceté est un sujet désuet, dépassé? Si nous avions besoin d'une autre preuve de son existence, voici comment nous pourrions la fournir. En reprenant la fable de l'anneau de Gigès, telle qu'elle est racontée, puis analysée, par le sophiste Trasimaque dans la République de Platon. Résumé, cette fable est celle d'un berger qui découvre un jour un anneau lui donnant le pouvoir magique de devenir invisible. Il en profite illico pour tuer le roi et épouser la reine. Trasimaque s'empare de cette fable pour faire une expérience de pensée. Si l'on supposait qu'un tel anneau soit en possession d'un homme injuste et d'un homme juste, verrait-on l'homme juste demeurer droit, ne pas profiter de cet outil, ne pas chercher à satisfaire ses désirs au détriment des autres? Ou bien le verrait-on, au contraire, se comporter aussi mal que l'homme injuste? Pour Trasimaque, la réponse est évidente. Nul ne résisterait au pouvoir de l'invisibilité. Pour ce sophiste, qui s'oppose en cela à Socrate, cette expérience constitue une preuve que nul n'est juste de son plein gré, que ce qui retient les hommes de mal agir, de faire le mal, n'est jamais que la loi. On pourrait d'ailleurs se demander si ce que nous avons dit plus haut relativement aux réseaux sociaux ne repose pas justement sur une sorte d'invisibilité. Invisibilité procurée non pas par le fameux anneau de Gigès, mais par l'anonymat en ligne qui permet aux auteurs de ces messages d'agir en toute impunité. Et d'une façon plus générale, force est de constater que les hommes ne se privent pas de faire souffrir quand l'occasion leur en est donnée, quand la situation est propice, comme dans les guerres par exemple, où il n'est pas rare de voir les soldats outrepasser leur mission en s'en prenant aux civils, en torturant gratuitement, en violant, en pillant. on le voit, parler de méchanceté n'a rien de désuet, de dépassé. Elle traverse l'histoire en revêtant des formes spécifiques selon les époques. Alors, précisons toutefois qu'il y a différentes façons de faire le mal. On peut même faire souffrir sans le vouloir. Et la méchanceté semble alors moindre, voire discutable. Il y a ainsi des degrés dans la méchanceté, comme il y a des degrés dans la souffrance que l'on inflige à autrui. On ne saurait mettre sur le même plan un Sade et un Don Juan. Faire souffrir un insecte et faire souffrir un être humain. Faire souffrir sous l'emprise de la colère et faire souffrir par pure cruauté. Il y a aussi différentes façons d'être méchant par égoïsme, malveillance, ambition, ressentiment et par bêtise aussi, etc. Il y aurait beaucoup à dire sur la diversité des vices qui relèvent de la méchanceté. Et là, on parlerait plutôt des méchants eux-mêmes, des types de méchants. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui est le fait indéniable, omniprésent de la méchanceté des hommes. Ils se font du mal, ils s'infligent des souffrances et ils sont donc globalement taxés de méchants, même si bien sûr, rappelons-le, tous les hommes n'agissent pas de façon méchante. Nous nous situons donc aujourd'hui à l'échelle globale de l'humanité, de son histoire, du triste spectacle de la méchanceté qu'elle offre. Alors, maintenant que nous avons défini la méchanceté comme penchant à faire le mal, évoqué sa dimension morale et son rapport à la souffrance, maintenant que nous avons établi qu'elle relevait d'un fait, nous voici confrontés à la question qui va nous occuper. D'où vient ce penchant? Est-il présent en chacun d'entre nous dès notre naissance? Il est vrai que nous avons tendance à penser, et peut-être à tort, qu'un penchant est nécessairement inné. En tout cas, le christianisme, et précisément la doctrine du péché originel, conçoit la méchanceté comme telle, comme penchant inné en conséquence du péché d'Adam, le premier homme. Son nom, Adam, signifiant d'ailleurs « homme ». Le christianisme est ainsi une tentative de penser la méchanceté. Mais nous verrons qu'il est du même coup une pensée de la condition humaine dans son entièreté, condition affectée par la méchanceté, mais aussi par la mort et toutes les souffrances naturelles. Présentons d'abord cette doctrine, trop souvent méconnue et caricaturée en conséquence. On ne saurait la soumettre à une éventuelle critique sans savoir ce qu'elle dit exactement. Qu'en est-il de son contenu ? On pense ordinairement qu'il est tout entier dans la Genèse, ce qui n'est pas le cas. Rappelons en bref ce que dit ce texte de la Bible, le fameux texte de la Genèse, car il est quand même fondateur. Adam, tenté par Ève, elle-même tentée par le serpent, c'est-à-dire finalement par le diable, Adam donc désobéit à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance. Ils sont ensuite punis en étant chassés du paradis, deviennent mortels et connaissent la souffrance sous toutes ses formes. La condition humaine est constituée avec son lot de misères, dont la mort. Ce texte essentiel, certes, ne constitue pas encore la doctrine complète du péché originel. Car cette doctrine dit plus que la seule faute d'Adam. Elle contient également l'affirmation que tous les descendants d'Adam, c'est-à-dire tous les hommes, héritent de sa faute, naissent pécheurs, ce qui, bien sûr, explique leur penchant, notre penchant individuel à la méchanceté. Comprenons bien que nous avons ici même l'explication à notre fameux penchant à la méchanceté. Car selon le christianisme, toutes les fautes que je commets dans ma vie d'homme, je les commets parce que je suis né pécheur et que je le suis en conséquence de la faute du premier homme. Cette affirmation de la transmission du péché d'Adam à tous les hommes, de sa propagation, nous la trouvons chez saint Paul. Citons-le. Par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, dit-il dans l'Épître aux Romains 5, 19. Affirmation lourde de conséquences puisqu'elle revient à dire que la faute se transmet et que nous naissons tous déjà pécheurs par l'effet de la justice divine. C'était le deuxième élément de la doctrine désormais achevé, la propagation du péché d'Adam à tous les hommes. Si donc nous sommes méchants, si nous nous faisons du mal, c'est d'abord parce qu'Adam a péché. Nous voyons maintenant, enfin je l'espère car la doctrine est quand même compliquée, nous voyons maintenant qu'elle nous offre cette doctrine une réflexion extraordinaire, d'abord pour penser la méchanceté, mais aussi finalement toute notre condition humaine. Citons encore le catéchisme de l'Église catholique. La nature humaine n'est pas totalement corrompue. Elle est blessée dans ses forces naturelles, soumise à l'ignorance, à la souffrance et à l'empire de la mort, et inclinée au péché. Vous voyez, inclinée, c'est-à-dire effectivement là que nous sommes en plein dans la question du penchant. Mais la nature humaine n'est pas totalement corrompue, nous dit le catéchisme. Cela signifie que, à la différence du diable, qui est l'être ayant une bonne fois pour toutes pris la décision du mal, à la différence du diable, l'homme peut et donc doit combattre le mal. Il peut aussi se repentir, ce que ne saurait faire le diable, dont la décision a été irrévocable. S'il y a donc des hommes méchants durant leur vie, il y a également des hommes bons. Mais il y a dans cette doctrine du péché un point que saint Augustin, au 5e siècle, va mettre en valeur. C'est bel et bien librement qu'Adam a péché. Adam aurait pu ne pas désobéir à l'interdit divin. S'il était soumis par le diable à la tentation d'égaler Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance, il n'empêche, il s'est laissé séduire. C'est lui-même qui a pris la décision de désobéir. Ce faisant, saint Augustin réussissait un tour de force. Il permettait par là même de disculper radicalement Dieu de l'accusation d'avoir créé un monde mauvais. C'est-à-dire un monde où règne le mal moral, la méchanceté, sous toutes ses formes, et où règne aussi la souffrance en général. En relevant le caractère coupable car libre du péché d'Adam, en faisant ressortir sa dimension morale, Augustin déplaçait tout le poids de la responsabilité du mal dans le monde sur l'homme. Il en innocentait Dieu. Il est très important de remarquer ici combien le mal moral de la méchanceté devient l'origine même du mal sous toutes ses formes, en entraînant une vision pénale de l'histoire. Nous subissons, en notre condition, ce que nous avons mérité de subir, en conséquence de la faute d'Adam. Si nous souffrons, si nous sommes accablés de maux, si nous sommes méchants, c'est l'effet d'une justice, celle de Dieu, qui se devait de réagir à la désobéissance d'Adam. Et c'est pourquoi Augustin insistait sur la méchanceté d'Adam, sur la méchanceté des hommes, en dégageant l'essence profonde de la méchanceté, en montrant qu'elle est participation active, voulue, choisie à l'acte mauvais, jusqu'à être jouissance du mal, plaisir pris à l'acte mauvais en tant que tel. Il sait de quoi il parle, Augustin. Car figurez-vous qu'il a lui-même fait, en quelque sorte, l'expérience du péché originel. Il l'a revécu en dérobant des poires. Ce simple larcin constitue pour Augustin une façon de revivre la faute d'Adam. Lisons ensemble cet extrait des Confessions où Augustin décrit à Dieu toute la jouissance que son cœur mauvais trouvait dans la désobéissance même. Le voici ce cœur, qu'il vous dise ce qu'il allait chercher là, pour être gratuitement mauvais, sans autre sujet de malice que la malice même. Hideuse qu'elle l'était, je l'ai aimée, j'ai aimé à périr, j'ai aimé ma difformité, non l'objet qui me rendait difforme, mais ma difformité même, je l'ai aimée. Âme souillée, détachée de votre appui pour sa ruine, n'ayant dans la honte d'autre appétit que la honte. Saint Augustin, les Confessions, livre 2. Eh bien, nous y voilà, la méchanceté dans toute son ampleur. Ce penchant à faire le mal, selon le christianisme d'Augustin, est un penchant qui, il faut bien le dire, ne rend pas l'homme aimable. Car lorsqu'il fait le choix du mal, c'est librement et jusqu'à pouvoir jouir de le faire. D'où le grand rire des méchants du début de l'émission et du diable lui-même. D'où ce paradoxe aussi, naître pécheur. Ce que nous ne choisissons pas. Cela signifie que nous ne sommes pas libres de pouvoir commettre le mal librement. Nous ne sommes pas libres de pouvoir commettre le mal librement. Pas facile à saisir, hein, ce paradoxe, car il articule curieusement fatalité et liberté. Nous sommes condamnés à faire le mal librement en conséquence de la faute d'Adam. Eh bien voilà la doctrine du péché originel achevée. On voit que le christianisme est une confrontation radicale, profonde, au problème de l'existence de notre penchant au mal. De plus, et grâce à cette doctrine, il rend compte de toute notre condition d'homme. Et dernier point, il assume l'objection faite à la bonté de Dieu d'avoir créé un monde où règne la violence, le mal moral et toutes les souffrances des hommes. Mais enfin, nous ne saurions terminer cette présentation sans évoquer la figure extrêmement importante du Christ, le Sauveur. Car si Jésus-Christ est mort sur la croix selon le christianisme, c'est précisément pour nous racheter tous. Le salut par le Christ témoigne ainsi de la générosité, de la clémence de Dieu qui offre son Fils mort sur la croix pour nous sauver du péché. Sa miséricorde éclate sur ce fond de l'universalité du péché. Si le christianisme fait apparaître toute la laideur, l'étendue du péché, il fait du même coup ressortir la surabondance, le surcroît de la grâce de Dieu. Si Dieu a créé Adam, faillible et futur pécheur, c'était donc pour manifester la charité même de Dieu et son amour infini. Dieu qui sait tout, qui prévoit tout, est à l'origine de cette harmonie qui s'achève dans notre salut. Évidemment, pour comprendre en quoi consiste le salut et comment il s'effectue, pour savoir s'il sera d'ailleurs salut de tous les hommes, il nous faudrait parler en détail du baptême, de la vie après la mort, du jugement dernier, mais ce serait bien long. Alors maintenant que nous connaissons un peu mieux cette puissante doctrine, nous pouvons nous interroger sur les problèmes qu'elle pose, car en effet, elle a fait l'objet de nombreuses critiques. Mais pour des raisons de temps et de clarté, je n'en évoquerai qu'une seule, et la voici. Si notre méchanceté et les maux qu'elle entraîne est elle-même méritée par la faute d'Adam, s'il est juste que nous soyons soumis aux souffrances qu'elle nous fait subir, est-il juste pour autant que les innocents, les bons, puissent eux-mêmes subir tant de souffrances durant leur vie? Comment Dieu peut-il estimer juste de condamner tout le genre humain sans distinction à subir méchanceté et souffrance sur terre? Car il y a des innocents, le petit enfant qui naît par exemple. Il y a aussi des hommes qui peuvent, et nous l'avons dit plus haut, résister au mal, aux propositions de Satan. Alors comment Dieu, qui est censé agir de façon juste, Dieu qui proportionne crimes et châtiments déjà sur terre, comme le dit la doctrine même du péché, comment peut-il permettre le malheur des innocents, la persécution des enfants par exemple? Et la disproportion de sa justice apparaît aussi en ceci, qu'il permet Dieu le bonheur, l'impunité du méchant. Quelle est la justice de Dieu qui frappe également, sans distinction, le juste et le méchant? Les protestations n'ont pas manqué de s'élever contre cette curieuse justice. Déjà dans l'Ancien Testament, avec la figure de Job, le juste souffrant, dont la plainte reste emblématique. Et pour illustrer la plainte de l'homme adressée à Dieu, voici un court extrait du film d'Henri Verneuil, Un week-end à Zuidcote. On est en juin 1940, à Dunkerque, au cœur de toutes les horreurs de la guerre. Écoutons Jean-Paul Belmondo, alias le soldat Maya, s'en prendre au prêtre et soldat Pierson, joué par Jean-Pierre Mariel, précisément à ce sujet.
T'en as une tête, d'où sors-tu ?
Qui s'est lavé ? Ton enfer, je viens de le voir de très près. Je peux même te dire que toutes vos histoires de curés, c'est vrai. C'est plein de flammes, avec 2000 types qui se tordent sur le gris. Et non, Pierson. Miracle, la question n'est pas originale. Mais ton bon Dieu, qu'est-ce qu'il fout pendant ce temps-là ?
À première vue, il s'est occupé de toi.
Pourquoi de moi seulement ? Tu peux pas faire plusieurs choses à la fois ?
Tu crois que c'est avec des raisonnements aussi simplistes que tu as ébranlé la religion ? Tu sais, Maya, tu fais pas le poids.
Et peut-être pas le poids, mais j'ai vu des types se tordre sur le grill, tu comprends ? J'en ai vu qui se prenaient les couilles en gueulant comme des fous, pendant que toi t'es là installé dans ta foi. Alors ton Dieu ?
Tu sais pourquoi tu t'en prends à Dieu, Maya ? C'est que tu as besoin de lui.
Bien sûr que j'ai besoin de lui. Tout le monde a besoin de lui ici. Alors où il est ?
C'est pas dans les dunes qu'il faut chercher. C'est lui d'avoir confiance et il te répondra.
Par des mystères, oui. Tu poses une colle, tu m'en poses une autre.
Je te pose une colle, tu me réponds par une autre. Le curé a en effet bien du mal à justifier l'inaction de Dieu, les maux endurés par les hommes. Les voies de Dieu restent impénétrables. Mais pourrait-on dire, pourrait-on m'objecter ? Il ne faut pas oublier la rédemption, la vie future ouverte par le sacrifice du Christ, l'espérance de la vie éternelle après la mort, là où la justice de Dieu éclatera enfin. Peut-elle compenser cette justice, les souffrances endurées ici-bas, les souffrances des innocents ? Telle est la question à laquelle nous confronte Dostoïevski de façon magistrale dans son livre « Les frères Karamazov ». En voici un extrait où Ivan, révolté par le martyre d'un enfant livré en pâture à des chiens sous les yeux de sa mère, Ivan exprime à son frère sa révolte. « Je veux être présent quand tous apprendront le pourquoi des choses. Mais les enfants, qu'en ferai-je ? Je ne peux résoudre cette question. Si tous doivent souffrir afin de concourir par leur souffrance à l'harmonie éternelle, quel est le rôle des enfants ? On ne comprend pas pourquoi ils devraient souffrir eux aussi au nom de l'harmonie. Pourquoi serviraient-ils de matériaux à la préparer ? Je comprends bien la solidarité du péché et du châtiment, mais elle ne peut s'appliquer aux petits innocents. Les bourrons souffriront en enfer, me diras-tu. Mais à quoi sert ce châtiment puisque les enfants aussi ont eu leur enfer ? D'ailleurs, que vaut cette harmonie qui comporte un enfer ? Je veux le pardon, le baiser universel, la suppression de la souffrance. » Fin de citation. L'espérance dans la justice de Dieu après la mort peut-elle l'emporter sur la révolte ? Eh bien, je vous laisse sur ce dilemme auquel nous a mené le sujet de la méchanceté.
C'était l'Intermède philosophique, une émission proposée et présentée par Camille Escamilla, une production Radio Albatros.